Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Serial Causeur. Tom n'est pas là, il m'a laissé la main pour poser des questions à notre invité spécial de ce numéro. Donc je vais vous présenter de suite Vincent Pomiereau. On va vous faire assister ensemble à une séance de psychothérapie un peu particulière. Ici, il n'y aura pas de psy ni de patient, mais juste un divan un peu métaphorique. C'est qu'on va donner la parole à quelqu'un qui l'apprend beaucoup en mettant des mots dans la bouche des autres, des fantaisies, des personnages de fiction. Il y a sûrement là quelque chose déjà à analyser. En face de nous, pour le plus grand bien de vos oreilles à tous, nous vous proposons donc de papoter avec Vincent, l'un des orfèvres de scénaristes français qui aime faire beaucoup accoucher les âmes avec des mots, que cela soit dans un séminaire ou dans un cabinet de psy. Vincent, vous êtes l'une des moitiés du duo Pomiereau-Elkaïm, à qui on doit, ainsi soit-il, mais aujourd'hui en thérapie. Donc on va vous avoir ce soir pendant quelques minutes, voire même proche d'une heure, autour, pour parler d'enthérapie, de votre métier de scénariste, de parole de scénariste, le mouvement qui est en train de prendre le large en ce moment, et de votre travail à la FEMIS, parce que vous êtes directeur de la...
Département écriture et création de séries.
Voilà, c'est ça, à la FEMIS. Merci donc à vous d'être avec nous. Et pour m'épauler, il y a Aki.
Bonsoir.
Qui, bien sûr, aime beaucoup passer sur le divan.
Fidèle au poste.
Voilà, c'est ça, fidèle au poste. Donc, Vincent, on va commencer avec une petite question déjà toute simple pour se mettre dans le bain.
Tu t'interroges sur ta famille et tu n'arrêtes pas de repartir sur les attentats.
Ça y est, tu fais ta psy.
Mais réveille-toi, papa. Il y a nous aussi.
Je veux pas rentrer dans vos trucs de psy. Faut vous le dire comment?
Va-t'en!
Qu'est-ce que vous allez faire, là?
Tu veux dire quoi, toi, quand tu dis con?
Bah, tu le sais, c'est ce que t'es.
Vous connaissez l'adage qui dit que le client a toujours raison. Nous avons tendance à penser que le patient a toujours tort.
Je dois pas être très sensible à l'humour de psy, en fait.
Comment on se retrouve sur un projet comme En Thérapie?
C'est vraiment le résultat de multiples... rencontres et connexions. D'abord, David et moi, on travaille ensemble depuis un certain temps. Évidemment, Frédéric et Olivier, sur un film qu'ils ont coproduit avec Bruno Naon, le producteur de Ainsi soit-il, et que donc j'avais écrit avec Mathieu Vadepied, qu'il a réalisé. Mathieu Vadepied, le directeur artistique et une sorte d'accompagnateur du travail d'Éric et Olivier depuis Les Intouchables, je crois. Hein, qui est crédité directeur artistique sur tous leurs longs métrages, et qui donc a réalisé, lui, son premier long métrage sur un scénario qu'on avait écrit à trois avec Olivier de Mangel, qui s'appelait La vie en grand. Et donc, Éric et Olivier l'avaient coproduit, donc on s'était rencontrés à cette occasion-là, on avait pu discuter scénario. Et puis, ensuite, il nous avait proposé avec David, il y a quelque temps, de bosser sur un projet de l'adaptation d'un autre concept israélien, en fait.
Ouais.
Ne s'est pas fait, voilà. Ben voilà, donc Mathieu Vadepied m'a rappelé en 2016, en me disant, écoute, voilà, Éric Olivier, en fait, il prépare un... Et je pense qu'à ce moment-là, avec Éric Olivier, on avait déjà... discuter un tout petit peu et on avait échangé sur le fait qu'on était assez fans, eux et nous, de cette série, dont on savait par ailleurs qu'il y avait des projets d'adaptation qui tournaient, puisque peu de temps auparavant, on avait déjà été contacté par une autre productrice que Yaël, Laetitia des Films du Poisson, qui avait les droits à l'époque, et qui nous avait vaguement parlé de projet, nous l'avait vaguement proposé, et puis c'était, voilà, ça n'avait jamais donné suite, et finalement, voilà, que Mathieu m'appelle en me disant, écoute, Éric Olivier voudrait bien vous voir parce qu'on est en train éventuellement de préparer avec les films du Poisson l'idée d'une adaptation de thérapie. Donc on a évidemment, nous, à ce moment-là, répondu présent à l'invitation d'Éric Olivier. Et très vite, on leur a dit, mais attendez, est-ce que vous pensez qu'on a les moyens, nous, d'adapter une série aussi incroyable? Et surtout, la série israélienne étant une adaptation, un filtre pour lire la société israélienne à son époque, comment on va se servir de ce filtre-là pour lire notre société à nous, en fait.
Ouais.
Et très vite dans la discussion, on est tombé d'accord avec Éric et Olivier qu'effectivement, il fallait qu'on parle de ce qui se passait en France à ce moment-là, et très vite est venue à la table, évidemment, l'idée de parler de la commotion qu'avait été pour nous tous les attentats du 13 novembre 2015, voilà.
Vous étiez déjà là, à ce niveau, quand vous, les attentats du 13 novembre sont arrivés sur la table?
Ah, bien sûr.
D'accord, ok, non. Okay.
Ça a été vraiment... c'est venu très vite dans la discussion. Ça faisait partie des choses dont Eric et Olivier avaient envie que la série parle. Et nous, à ce moment-là, on a dit non, mais voilà, ça va parler de ça, mais ça doit vraiment parler spécialement de ça. Et en discutant avec eux, on s'est rendu compte que voilà, ce qui nous intéressait, c'était quasi de commencer donc, la série peu de temps après les attentats, voire même ensuite, on a dit... il faut aller plus loin, il faut que le cabinet de psy soit à deux pas des
Bataclan. Ouais,
tout de suite, Eric et Olivier ont dit formidable, c'est ça qu'il faut. Voilà.
Et si je peux me permettre, donc, vous avez dit que vous appréciez en thérapie la série, donc c'était Betty Pool ou vraiment In Treatment, la version américaine?
On avait vu d'abord la version américaine, et puis, alors je ne sais pas, David, il faudrait qu'il... Moi, j'avais vu quelques épisodes de Betty Pool aussi, oui, qu'on m'avait passé. Je connaissais le travail de Haggai par ailleurs, Haggai Levy, le créateur de la série originale. Alors, je connaissais intégralement la saison 1 et la saison 2 d'ailleurs de thérapie. Et je savais que Haggai, bon, qui avait participé à l'adaptation américaine, avait fait un original israélien. Et j'en avais vu quelques épisodes. Voilà, assez pour me rendre compte que la série américaine était un décalque assez fidèle de la série israélienne en gros.
C'est aussi le cas dans Thérapie, l'adaptation française, du coup.
Alors, je dirais que notre adaptation est un peu moins fidèle que celle que l'américaine. D'abord parce que, justement, elle thématise sur cette question du trauma des attentats et elle en fait quelque chose qui habite, du coup, l'ensemble du parcours du psy, mais même aussi en partie des patients, et que donc je dirais que thématiquement notre série se phrase ainsi: peut-on laisser le monde à la porte? Et c'est pas exactement la thématisation des séries israéliennes et américaines. Voilà, donc je dirais que nous, notre adaptation, tout en étant évidemment extrêmement fidèle à ce qui correspond, ce qui n'a pas besoin d'être changé dans le projet de Haggai, l'orientation en termes de sujet sur l'après-Bataclan qu'on a introduite, oblige à rethématiser la série, et donc un peu différemment. Donc je dirais non, que notre série, notre adaptation est moins fidèle que ne l'est l'adaptation américaine.
D'ailleurs, est-ce qu'en adaptant une telle série, qui a été multipliée dans le monde entier, est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce que Haggai Levy vous a dit, bon, voilà, vous pouvez vous attaquer en Betty Pool, mais vous devez respecter pour tel personnage cette histoire-là, pour celui-ci, celle-ci, et respecter tel format, est-ce qu'il y avait des contraintes assez fortes?
J'ai envie de dire non. En tout cas, dans les relations qu'on avait avec Haggai, jamais cette question ne s'est posée. Je ne sais pas si elle était sous-entendue et que du coup, Haggai... Moi, ça m'étonnerait. Disons que... Haggai, il veut avoir un droit, un œil à regarder sur les adaptations. Il aime bien dire quelque chose, et comme il connaît très très bien ce format dont il est l'inventeur, ouais, et qui est en soi, en tant que concept, un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre de conceptualisation narrative. Là, pour le coup, autant je revendique quelques responsabilités dans la façon dont nous avons eu d'infléchir quelques éléments de la série française, autant je tiens à préciser que c'est le chef-d'œuvre, c'est le concept de Haggai, et c'est un chef-d'œuvre dramaturgique absolument époustouflant, on va dire. Bon, donc je pense comme il connaît bien cette forme-là, il est capable, une fois qu'il a compris quel est l'angle, s'il y en a un, de l'adaptation nationale, on va dire, il est capable de donner des conseils vraiment très, 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 très pertinent et très profond, mais pour nous, il n'a jamais employé des arguments incitatifs. Disant que très peu de temps après ces discussions-là avec Eric et Olivier, on a été le voir, David et moi, à Haggai à Londres, le rencontrer, pour lui pitcher justement notre angle et notre nouvel angle d'attaque, notre thématisation, et aussi en quoi certains des personnages, du coup, devraient bouger, nommément le psychanalyste lui-même, évidemment, le policier entré au Bataclan, la contrôleuse, et puis finalement, sociologiquement, un tout petit peu les autres personnages, mais beaucoup moins. Et à peine on a commencé à lui raconter cette histoire du 13 novembre, du Bataclan, de la rue de la Fontaine au Roi, des questions que le psy allait voir s'ouvrir devant lui, spécifiques à ce moment-là, etc. Enfin, bref, Ragaï a dit « Formidable, vous avez trouvé le bon angle, vous allez vraiment faire la version française de la série que j'attends, parce que lui, il espérait que les Français le feraient tôt ou tard. »
Oui, parce qu'on arrive quand même après la bataille, presque 10 ans après la création de la série. Voilà.
Il disait, mais je ne comprends pas pourquoi les deux pays de la psychanalyse que sont l'Allemagne et la France n'ont pas fait leur version.
On n'aime pas beaucoup se regarder et s'interroger là-dessus.
Vraie question.
Il avait mis les infos et c'est comme ça que j'ai su pour le Bataclan.
Quand on est arrivé, on a compris que les mecs avaient des otages et on a su que ça allait être très dur.
Je suis là pour avoir un avis d'expert. Moi, je suis pas malade, quoi.
Je me sens pas du tout capable d'aimer un nouvel enfant.
La vérité, c'est que j'ai la trouille.
Quand on vient consulter, c'est qu'on a quelque chose à dire et quelque chose qu'on ne veut pas dire.
Du coup, à ce moment-là, Ragaï nous a encouragés. Et à chaque fois qu'on l'a revu, y compris à Paris, puis à Lille pendant Série Mania, puis à la veille du tournage, chaque fois qu'on l'a vu, qu'on a passé un peu de temps avec lui, il nous a plutôt poussé à radicaliser notre concept, à aller jusqu'au bout et à ne pas céder sur ce qu'on voulait vraiment raconter par rapport au contexte de la fabrication. Et jamais, en aucun cas, il nous a dit « Non, mais par contre... » Et quand il a lu les 5 premiers en détail, qu'on a bossé sur ses retours, à aucun moment, il nous a dit « Non, mais ça, c'est pas dans le... » dans le protocole d'adaptation, il n'en a jamais été question.
D'accord. Je dis, elle a une belle preuve de confiance. Hein.
Ah, incroyable.
Là, on parle de thérapie, c'est vrai que les thérapies se démocratisent de plus en plus, mais pour dire pourquoi la France ne s'y est pas attelée avant, il y a quand même encore un gros tabou autour des psys, autour des séances, etc. Et est-ce que vous, ça vous a un peu exorcisé, justement, d'écrire une série sur les thérapies?
C'est pareil, nous, on aime bien, avec David, les endroits de la société qui sont à la fois et les pratiques sociales qui sont conflictuelles, c'est-à-dire qui font débat, parce que là où il y a débat, là où il y a conflit, il y a des histoires à raconter, parce qu'il y a des affects extrêmement forts que des êtres humains mettent dans une pratique ou dans sa critique, etc. Donc évidemment ça vaut pour les prêtres, ça vaut aussi pour les psychanalystes, c'est-à-dire que ce sont des endroits où nous, au contraire, instinctivement, on savait qu'il y aurait des choses à faire et que ça allait soulever des questions, y compris et avant tout, à l'intérieur de la fiction, entre les personnages, concernant ce qu'ils sont en train de faire. Après, moi je pense qu'en vérité, la raison majeure pour laquelle la série n'avait pas été adaptée, c'est parce qu'il y avait dans la série originale, je crois 42 ou 43 épisodes,
oui.
45 dans l'adaptation américaine. Les Italiens l'avaient fait en 1935, ce qui était notre modèle. Et là, je rends hommage au passage à Nicolas Lusiardi qui a dirigé l'écriture de l'adaptation italienne, qui est un ami et surtout un des grands théoriciens et praticiens et un des grands acteurs de la révolution sérielle en Europe. Mais clairement, le problème était le nombre d'épisodes et le format. C'est-à-dire que la France a pris énormément de retard sur l'innovation sérielle internationale, on va dire, notamment en termes de format, et l'idée de faire déjà du 26 minutes qui ne soit pas de la comédie, et en plus d'en produire 35 épisodes, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans les normes et dans les conceptions en termes de format, ni des diffuseurs, ni des producteurs. Donc c'est plutôt ça, à mon avis, qui a empêché pendant 10 ans qu'on fasse la série, pas les questions réelles par ailleurs, de prévention sociale autour de la psychanalyse.
C'est sûr. C'est vrai que la version américaine, alors l'israélienne, je ne sais pas, mais l'américaine, elle était diffusée un épisode par soir et pendant
35... israélienne aussi. Hein, et ça, aussi, c'était... Voilà. C'était ouais. Au départ, Ragaï a pensé ça comme un soap. Enfin, ouais, un contre-soap.
Oui.
Et nous on le feuilleton à la française. Évidemment, pendant 7 semaines... être programmé face à Plus belle la vie, un plus beau soleil nous appartient, demain c'est dimanche, enfin bref.
Très très drôle celui-là, franchement elle est vraiment très drôle.
Du coup, on aurait adoré Mais, ouais, je me doute. Mais évidemment, ça n'a pas été possible.
Mais est-ce que là aussi, c'est de la frilosité de la part, par exemple, de Arte, qui est diffuseur, ou c'est, c'était parce que c'était pas pensable.
Je ne vais pas accuser Arte de frilosité, puisque eux ont produit en thérapie, faire, ce qui ouais. en soi est un grand courage éditorial. Et un pari réussi, vu l'espoir. Un pari réussi, mais dans l'après-coup, comme on dit en psychanalyse, on peut expliquer et on peut dire, bah voilà, mais sur le moment, il fallait être capable de c'est Véronique Ella, Bruno Patino, Olivier Wotling, Adrienne Fréjac, je cite la chaîne des gens qui nous ont accompagnés là-dessus. Il fallait un vrai courage pour le faire. Eux, ils ont le courage. Après, la case n'existant pas,
oui.
ils ne pouvaient pas la créer pour nous. Ils ne pouvaient pas. Il lui fallu qu'ils se mettent à faire de l'access prime time de manière systématique. Et la case n'existait pas, donc on ne pouvait pas rentrer dans cette case, hélas. Là, je ne vais pas les accuser de frilosité. Ils n'avaient pas changé toute leur architecture. On en a caressé l'idée vraiment avec eux. Hein. On en a parlé. Et puis voilà, c'était pas possible.
Parce que, enfin, au final, de le mettre comme ça sur arte.fr, sur le site, à la dispo de tout le monde peut le consommer de la façon dont il le veut. Après, ils peuvent se faire un rendez-vous. Parce que cinq journées, un jeudi soir, c'est quand même assez intense émotionnellement. Il y a quand même une implication émotionnelle qui est quand même assez costaud à mettre pour suivre les épisodes. Parce que c'est pas non plus tout facile et rose tout ce qu'on prend dans la tête en regardant cinq épisodes d'un thérapie, quoi.
Après, je pense et j'espère que ça accompagne aussi un changement et une migration dans lequel Arte est un peu pionnière
oui.
D'une chaîne sur une plateforme. Et que du coup, ça va peut-être encourager aussi, j'espère, les spectateurs qui sont encore rétifs au replay ou au visionnage sur plateforme à passer eux-mêmes à la plateforme. Ma mère, puisque on parle de psychanalyse, je peux vous parler de ma mère. Ma mère, donc, elle a réussi à cette occasion à brancher sur sa télé le truc de replay. Enfin, je sais pas comment
le site d'Arte.
Bref, non, maintenant, elle peut regarder Arte TV sur sa télévision. Donc, grâce à ça, à 74 ans, elle a fait un progrès technologique majeur. Et
la révolution voilà, made in Arte, c'est beau.
C'est ça. Et évidemment, je pense que ça va aussi contribuer, j'espère, à définitivement ancrer sur Arte TV un public plus jeune qu'Arte, grâce aussi à sa politique éditoriale et à son audace technologique, a déjà commencé à rassembler.
Oui, c'est vrai.
Arte, ils sont en train réellement d'inventer quelque chose. Déjà, en termes de contenu, ils ont déjà inventé une chaîne, effectivement, qui s'est considérablement modernisée et rajeunie, je dirais,
moi aussi, par rapport à
moi qui suis un spectateur d'Arte depuis quasi le début, depuis même avant Arte, depuis Océanique, enfin depuis la 7, etc. J'ai 51 ans, donc il faut que je l'avoue. mais je suis admiratif de comment ils sont en train d'inventer une vraie télévision de demain, on va dire, et comment ils ont réussi comme ça, petit à petit, à se moderniser, et en termes de contenu, et en termes technologiques. Voilà.
Et alors, pour le coup, je vais revenir sur la série, parce que le sujet, donc les attentats, enfin, ce n'est pas le sujet principal, mais partir sur les attentats du 13 novembre, il y a aussi quelque chose qui a, pour le coup, comme c'est assez récent, qu'on l'a tous plus ou moins vécu, de manière plus ou moins éloignée, ça nous a vraiment tous intéressés. Donc, il y avait forcément un appétit pour pouvoir découvrir ça, parce que c'est l'une des rares fictions françaises qui parle de ce sujet-là aussi. Donc, c'est pour ça que ça a dû prendre un public assez large et attirer encore plus de monde, et d'où les 15 millions de vues qui ne sont que le début.
Oui, je crois que c'est même 17 maintenant.
Ça fait une semaine. C'était vendredi dernier, les 15 millions.
Ça, je crois qu'on doit approcher des 20 millions, là, maintenant, je pense. Mais je dis ça, évidemment, je suis fier.
Il y a de quoi.
On ne peut pas faire mieux quand on écrit des choses et qu'on prépare des formes dramaturgiques qu'on veut adresser à des spectateurs. Il ne peut pas nous arriver mieux que de rencontrer beaucoup de spectateurs.
C'est, ouais.
Non, mais alors, parce que pour nous aussi, pour le coup, ça a à voir avec notre éthique d'auteur. C'est vrai que notre désir, c'est de rencontrer le plus grand nombre de nous adresser au plus grand nombre de spectateurs possible, mais pas par n'importe quel moyen, on va dire. Pour nous, c'est très important, avec David, et je pense qu'Éric et Olivier seraient d'accord avec ça, de trouver comment adresser aux spectateurs quelque chose de l'ordre d'un rapport avec ce que nous vivons collectivement tous en France aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, ou en tant qu'être humain. Voilà, quelque chose qui a à voir, qui est important d'échanger entre nous. Et c'est du coup, le 13 novembre, c'était quelque chose dont tous les gens qui pensent qu'on est là pour adresser aux spectateurs des choses qui ont à voir avec notre vie de tous les jours et de ce qui nous impacte. Tout le monde cherchait comment en parler. Et en même temps, typiquement, un événement comme ça, c'est extrêmement de savoir par quel angle l'aborder. Et c'est vrai qu'à l'instant où cette histoire de... On va parler de l'après 13 novembre, et c'est de ça que c'est ça l'élément déclencheur de notre série. À l'instant où on s'est dit ça, David et moi, on avait de dernières réserves qui étaient on va pas, est-ce qu'on peut réellement prendre le risque de s'attaquer à un chef-d'œuvre qui est Betty Poole In Treatment et de risquer de l'abîmer comme ça arrive parfois, hein, je ne dis pas, à certaines adaptations françaises de séries. On a su avec David et avec Eric et Olivier, je pense aussi, ils ont pensé la même chose, qu'on n'avait plus le droit de reculer. On avait trouvé l'angle qui pouvait permettre de parler latéralement des attentats, de raconter réellement ce que c'est que notre émoi, notre effroi, les affects puissants qu'on avait tous ressentis. On avait enfin trouvé l'angle et la bonne caisse de résonance, ce cabinet d'analystes, pour en parler. Donc, à partir de ce moment-là, on n'avait plus le droit de ne pas le faire.
Et est-ce qu'il était dur de mettre des mots sur cette expérience traumatique nationale, pour le coup ?
Bah, disons qu'on pouvait faire parler des gens jusqu'à un certain degré de proximité avec l'événement, depuis ceux qui sont très, très près, comme Shiban, comme Adèle Shiban, jusqu'à, finalement, ceux chez qui l'événement va arriver assez tard, au détour d'une réflexion sur ses camarades d'école, comme chez notre adolescente nageuse, et en passant par divers degrés de connexion. Ça permettait aussi, d'ailleurs, de mettre en scène quelqu'un qui est nous, en fait, très proche de nous, c'est-à-dire un homme comme Dayan, qui, lui, finalement, s'est contenté de manquer l'événement alors qu'il s'est passé à deux pas de chez lui, ouais, pour des raisons privées, et donc qui est renvoyé à cette question essentielle et centrale de notre adaptation, qui est comment est-ce que j'ai pu faire pour m'éloigner à ce point du monde, et est-ce que je peux réellement accepter d'être devenu quelqu'un qui ne laisse plus entrer le monde par sa porte.
Si je comprends bien, la prochaine saison, ça sera post-pandémie, alors.
Je ne sais pas ce qu'ils font, puisque ce n'est pas nous qui la faisons.
Donc, ça c'est déjà une nouvelle, parce que déjà on savait pas qu'il y ait forcément de saison 2 et que vous ne seriez pas sur la saison 2.
Alors on va dire qu'à la fois je pense qu'il y a une saison 2, puisqu'il en a été question longuement. Voilà, on n'a pas trouvé avec les partenaires artistiques et industriels aux commandes les conditions qui nous semblaient nécessaires pour pouvoir continuer à prendre soin de notre bébé.
Ouais.
Donc ça a été un déchirement, mais ce travail est un travail collectif,
oui,
et il a besoin que chacun dans ce collectif puisse se sentir bien. Et dans les nouvelles conditions, nous on ne se sentait plus bien.
On reviendra sur ce sujet-là parce que ça fait un peu partie du problème qu'on évoquait tout à l'heure sur de paroles de scénariste, mais on reviendra dessus. Aki, tu avais une question à poser sur l'écriture d'En Thérapie.
Oui, en fait, ça rejoint un petit peu, vous parlez de collectif, etc. Donc, est-ce que c'était votre idée d'engager un pool de scénaristes pour travailler sur chaque personnage ?
En fait, on a été laissé assez libre, David et moi, par Éric et Olivier, de gérer l'écriture comme on voulait. Ils ont lu les 5 premiers épisodes qu'on avait dialogués, ils nous ont fait des retours, ils ont suggéré des choses très droites du côté de la compréhension, mais tout de suite, je pense qu'ils adhéraient au projet. Bon, après, ils étaient les délais d'acceptation et de mise en route du projet ont été très très longs. Et Eric et Olivier, eux, avaient des films, enfin des projets, des choses qui se bousculaient, qui arrivaient comme ça, qui ne pouvaient pas retenir indéfiniment à la porte, et donc ils sont partis faire leur film à un moment donné. D'accord. Et donc c'est le moment aussi où l'écriture a démarré, pas les 5 premiers, mais où il a fallu pour le coup aller vite et écrire les 30 suivants. Et après, pour des questions de droit et de planning d'Éric et Olivier, ils sont écrits très vite pour que le tournage puisse... voilà, c'était... Raga, il avait un peu bossé comme ça, et que en même temps, si on travaillait en équipe, on irait plus vite. Ouais. Et logiquement, à ce moment-là, on s'est dit, voilà, si on recrute du monde, on va recruter des gens qui vont s'occuper chacun d'un patient, parce que comme ça, ils vont pouvoir en prendre soin, on va dire, et puis défendre sa position, là où dans chaque épisode, il y a aussi la position du psy.
Oui.
Et donc voilà, que nous, peut-être, voilà, on était plus capable de filer tout du long, puisque narrativement parlant, évidemment, un épisode sur 5 permet de suivre l'histoire d'un patient. Et en même temps, tous les épisodes permettent de suivre le parcours du psychanalyste.
Oui, tout
donc
à
voilà,
fait.
Ce double niveau de lecture, il fallait qu'on l'incarne aussi. Et donc voilà, on a recruté Pauline Guéna, Nassim Métard et voilà, Alexandre Manville pour écrire ces personnages avec nous et pour en prendre soin.
Et donc au final, vous avez servi de showrunner pour vos scénaristes qui sont venus vous aider, vous épauler, mais au final, vous rendiez des comptes sur le dessus ou pas du tout ?
La direction de l'écriture était très très libre, c'est pareil. D'accord, c'est-à-dire qu'on on avait énormément parlé en amont à Éric et Olivier, y compris de ce qu'on voulait faire avec les personnages, avec... tout était... c'était pas... ils savaient ce qu'on allait faire.
D'accord. Vous étiez mis d'accord sur l'évolution des personnages et sur la finale.
Oui,
le parcours.
Oui. Alors après, pas sur la ligne épisodique et sur les, mais sur les grandes arches, sur les personnalités, sur le. On était vraiment d'accord là-dessus et il nous faisait confiance pour le réaliser, pour le mettre en œuvre, pour le mettre en écriture. On a été directeur d'écriture.
D'accord. Ok.
Et alors Arte, là... évidemment, et en particulier Adrienne Fréjac qui nous suivait. Voilà, ils savaient que c'était aussi à nous qu'ils avaient affaire et avec on va dire la bénédiction de Déric et Olivier et voilà et Adrienne qu'on connaît puisqu'on connaît bien Arte aussi voilà on a une vraie histoire avec Ainsi soit-il avec eux et tout ça donc il y avait une confiance aussi le fait que Arte avait confiance en nous était aussi un atout pour Éric et Olivier qui du coup savaient que ils pouvaient nous laisser voilà, faire une partie du job sans voilà, de mettre en danger le projet.
Et avoir donc des grands noms du cinéma français pour interpréter vos personnages, ça a été une bonne surprise, c'était inattendu ou pas ?
Bah, encore une fois, c'est un des multiples, je dis des multiples avantages de bosser avec Éric et Olivier. Avec leur, outre qu'ils ont leur poids et décisif, presque même politique et artistique. Hein. C'est-à-dire qu'évidemment, quand Éric Olivier arrive à Arte en disant « on va le faire », c'est massif, on va dire. C'est très difficile pour Arte de dire « oh ben non, en fait, on va pas le faire, en fait. On va pas prendre votre proposition ». Voilà. Donc il y a ce poids-là, il y a cet engagement, et il y a évidemment leur talent de réalisateur et de directeur d'acteur. Et donc, évidemment, la liberté de choisir pour eux le casting qu'ils veulent, quelque part. Enfin, j'exagère, mais en même temps, on a eu accès, grâce à eux, à tous ces comédiens, qui auraient été beaucoup plus difficiles de rassembler si ce n'était pas pour Éric et Olivier.
Bah, ce n'est pas comme si vous n'avez pas créé Ainsi soit-il, donc les gens auraient pu voir votre travail et vous faire confiance aussi à ce moment donné-là. Est-ce que les scénaristes français ont quand même besoin de ces grands noms de réalisateurs pour pouvoir avoir un projet qui tienne la route ?
Probablement encore aujourd'hui, mais ça va être de moins en moins le cas, on va dire. Après, la garantie d'un réalisateur qui connaît bien les acteurs et avec qui les comédiens aiment travailler est vachement importante. Et pour Ainsi soit-il, Rodolphe, qui est évidemment avait loin d'avoir la renommée d'Éric Olivier, mais qui était quand même... un type qui avait réalisé une fiction Arte, mais qui avait été aussi longtemps l'assistant de Jacques Fonstein sur énormément de projets. Pareil, son nom faisait naître chez les comédiens une vraie confiance et un vrai désir. Je pense que... Moi, je ne crois pas à la version du showrunner décalquée...
de l'américaine.
Ou en tout cas, automatiquement de la version américaine. Je crois qu'il faut prendre... En fait, tout est contextuel et la vérité, ce n'est pas l'idéal, c'est ce qui rend possible les projets. Et en France aujourd'hui, je pense qu'effectivement, on a besoin de faire alliance vertueuse avec des gens qui amènent sur les projets, c'est pour ça que je parle de collectif, des capacités conjointes, on va dire. Et je pense que quelqu'un qui est un bon directeur d'acteur, qui promet aux comédiens un plateau heureux, on va dire, heureux et créatif, c'est un atout vraiment important. Même si j'espère qu'à l'avenir, les comédiens de plus en plus vont venir parce que les noms des scénaristes leur promettront, de par ce qu'ils auront fait avant, maintenant que les acteurs aussi connaîtront les noms des scénaristes, ils vont probablement pouvoir venir parce qu'ils aiment les histoires qu'on raconte, j'espère. Mais l'un n'est pas du tout antagoniste de l'autre.
Alors, je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais avoir des réalisateurs qui sont aussi même scénaristes lors du tournage, si... Alors, je ne sais pas si vous étiez présent ou pas, mais c'est-à-dire que s'il y a un problème sur... je ne sais pas moi, sur du texte qui est trop long, qu'il faut couper une scène, c'est-à-dire que c'est qui s'en occupe? Est-ce que c'est ce réalisateur-là? Est-ce qu'il appelle le scénariste en disant « bon, il va falloir réécrire, retoucher une scène », est-ce que tu viens, est-ce que tu fais quelque chose? Ou c'est eux qui décident et tant pis pour la vision du scénariste et de ses mots?
Encore une fois, il faut être pragmatique et c'est, chaque projet doit se formater comme pour le mieux du projet lui-même, on va dire. D'une manière générale, nous, avec David, quand on arrive à obtenir les garanties nécessaires, on obtient de garder au maximum le soin de ce que devient le texte, sachant que, évidemment, quelqu'un qui a conçu l'architecture dramaturgique générale d'une grande machine narrative est probablement la mieux à même sur le tournage, et d'ailleurs même celle à qui ça coûte le moins cher en termes d'énergie et de travail, de savoir si bouger une scène, la couper, la changer de lieu, risque de porter atteinte à l'architecture globale du récit.
Ouais.
Raison pour laquelle l'intérêt bien compris d'un producteur et d'un réalisateur ou d'une équipe de réalisation, quand c'est le cas comme en thérapie, et devrait logiquement être, une fois qu'on s'est débarrassé de l'ego et des problèmes de pouvoir, on va dire, devrait logiquement être, dans un monde idéal, ménager une place à la voix, au conseil de l'auteur, du scénariste qui a conçu cette grande architecture narrative, jusqu'à la fin de la post-prod. Ça serait, s'il y a une logique à ça, qui est à la fois industrielle et artistique, qui me semble difficilement contestable. Dans le cas d'En Thérapie, c'était un peu compliqué à certains moments, notamment pour des raisons simples, qui sont que ni les productrices ni Eric Olivier n'avaient vraiment fait de séries avant, de vraies séries.
Ouais.
Les productrices avaient produit un 4x52, ce qu'on ne peut pas vraiment considérer comme une série. Du coup, on était quand même les plus expérimentés. Mais pour des raisons culturelles, ils ont peut-être eu tendance à pas totalement nous écouter à cet endroit-là. Ça s'est négocié. Et disons qu'à la fin, il y avait un de nos auteurs, Alexandre Manville, était délégué sur le tournage.
D'accord.
Et qui a fait tout le tournage, mais tout le tournage. C'est-à-dire qu'il était présent tous les jours et qui était à disposition pour aider l'équipe à retravailler en cas de besoin les séquences sans risquer d'altérer l'esprit et la lettre de la dramaturgie globale, on va dire.
J'ai lu une interview de cet Alexandre Manville sur un site toulousain, où c'est qu'il a parlé de cette expérience-là et du fait que, en fait, ça s'est presque joué à pas grand-chose parce qu'il était là sur Paris, et qu'il s'est retrouvé sur le tournage et que donc il est devenu presque essentiel de voir et d'être présent pour pouvoir retoucher, aider à ne pas dénaturer le texte. Et il a même été presque surpris, voire même, pour le coup, je l'ai interprété de manière assez traumatique. Il l'a vu, il a vécu un trauma de quand les gens, ils se sont dit, mais tiens, il faut couper là, il faut faire ça, il faudrait réécrire ça. Et il s'est dit, mais bon, tu sais, notre texte, on ne nous demande pas forcément notre avis. Et donc après, à ce moment donné-là, il dit clairement, mais j'étais sur le tournage tout le temps et j'ai pu servir d'intermédiaire entre les réalisateurs, le script et essayer de sauver le texte qu'on avait fait à la base. Quoi.
Disons qu'il y a un moment, on a réussi à obtenir que ce poste-là existe sur le tournage. On l'a proposé à Alexandre. Et évidemment, il l'a inventé. On l'a proposé à Alexandre tout en lui disant que c'était mal payé
Ouais.
Mais en comme disant, souvent écoute, dans ce domaine-là.
Voilà. Mais écoute, allez, on l'a dit, tu n'es pas obligé d'accepter. Mais si tu veux prendre cette responsabilité-là, le projet en a besoin et tu le sais. Et lui, évidemment, ça l'intéressait aussi parce que c'était une sacrée expérience.
Oui, ben je me doute. Oui.
Voilà, donc il l'a accepté et je pense qu'une fois sur place, eh ben, il a inventé la place qui devait être la sienne parce que les autres n'avaient pas d'idée de cette place. C'est-à-dire que tant est la culture sérielle en France est encore balbutiante, on va dire. Et donc, les gens qui étaient sur le plateau, avec tout le talent qu'ils avaient, étaient des gens de cinéma exclusivement. Enfin, ouais. En tout cas, pas tous, puisqu'il y avait aussi dans les techniciens beaucoup de gens qui bossaient sur le bureau et tout ça, mais en tout cas dans les grands postes. Et donc, ils n'avaient aucune idée de ce que pouvait faire. Et donc, Alexandre a dû diplomatiquement, avec beaucoup de diplomatie,
oui,
et néanmoins
dans son texte, oui.
Et néanmoins de ténacité, et parce qu'il nous appelait souvent quand même pour nous poser des questions et pour avoir un peu de soutien psychologique, on va dire. Mais voilà, il l'a inventé parce que encore une fois, la culture sérielle de plateau française a du mal. Avec cette idée pourtant très simple que le scénariste n'est pas là pour emmerder le monde, mais au contraire pour faciliter la vie de tout le monde.
Alors là, c'est là où donc on est dans le vif du sujet. Donc, comment peut-on être scénariste encore aujourd'hui en France et encore plus sur des séries, vu le succès que ça a et vu la demande qui commence à avoir complètement croissante et complètement folle, comment on ne peut ne pas avoir de scénariste sur le tournage? Et de toute façon, ça se voit, hein, que ce soit Fanny Herrero qui nous en a parlé plusieurs fois sur Serial Causeur, enfin de tout ce qu'on peut lire en ce moment, et puis avec Paroles de scénariste, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Je n'arrive pas à
le
scénariste est toujours considéré, ouais. Mal considéré, quoi.
Alors, j'ai envie de dire que malheureusement, ça se voit aussi dans les séries elles-mêmes. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles la France, malgré les sommes considérables investies dans la fiction, hein, a encore comme retard, y compris sur les ventes internationales des séries qu'elle produit, mais aussi d'ailleurs quand même sur les audiences des séries françaises, en tout cas sur un public jeune, urbain et je dirais cultivé en termes de séries, c'est-à-dire tous les jeunes.
C'est ça.
Voilà, je pense qu'effectivement, peu de gens se rendent compte que en France, les gens de moins de 30 ans n'ont aucune idée de qui est Fred Testo, par exemple.
Encore Fred Testo, je trouve, oui. Que ça devrait
non,
pouvoir
non,
passer.
Non, mais même, je prends un exemple vraiment extrême comme ça. Mon fils, qui a 21 ans, n'en a jamais entendu parler.
Ah, et regarde pas Sam.
Ou le service après-vente,
bah, ça non, le service après-vente, alors, c'est fini, mais Sam, oui, voilà, mais
il a 21 ans, justement. Il faut se rendre compte que ces choses-là passent très vite, on va dire.
C'est vrai.
Voilà. Et même, d'ailleurs, Carole Bouquet.
Oui, ça, je peux plus comprendre, en vrai. Hein.
Bah, je connais beaucoup de gens de moins de 30 ans qui n'en ont jamais entendu parler.
Oui. Mais,
disons que le fait que La Mente ait fait un tel succès il y a 2 ou 3 ans sur
vrai,
TF1, ne veut rien dire pour le public de demain, parce que moi je pense que la question c'est pas le public d'aujourd'hui qui reste encore présent devant les écrans de télévision, voilà, mais ce public là il va petit à petit disparaître, on va dire. Je veux pas donc nous on il faut aussi penser aux spectateurs de demain qui ont en fait déjà quadragénaire, on va dire,
ouais.
Et qui ne se contenteront pas, parce qu'ils auront passé la cinquantaine, de se mettre devant Joséphine Ange-Gardien. Ça n'aura pas lieu, en vérité. Donc, c'est ça le vrai problème. Par un effet de seuil, je pense, hélas, les décideurs, de manière générale, n'ont pas encore intégré, et donc ils continuent, puisque c'est ce qu'ils savent faire dans un système dans lequel l'excellence de la dramaturgie n'est pas de mise, et donc ils pensent ne pas avoir besoin du scénariste parce que c'est une logique humaine, c'est-à-dire que on fait ce qui nous coûte le moins d'efforts, et donc le système qui accepte des choses qui devraient peut-être pas accepter parce que parfois ils sont très bien payés pour ça, les réalisateurs qui jouissent d'un certain pouvoir, et c'est vrai que c'est compliqué de se dire que on va devoir prendre du temps pour parler avec des gens, alors que tout se fait de manière hyper speed, etc. Que donc, si on n'est pas obligé, il faudrait être super vertueux en tant que réal pour imposer à tout le monde l'idée que non, on va écouter ce que dit le scénariste.
Idem. Mais est-ce que ce n'est pas en train de changer ça aujourd'hui avec une nouvelle génération et que, dont la génération que vous êtes en train de former, vous, à la FEMIS?
À la FEMIS, ouais, exactement.
Je dis oui, alors on va parler de la FEMIS, mais je vais aller au bout parce que, idem pour les producteurs qui savent très bien que, même s'ils étaient conscients que, c'est, que la qualité finale peut souffrir du fait de ne pas écouter les scénaristes qui ont créé le concept, en même temps, si. Encore une fois, ça met plutôt en danger industriellement le projet qu'ils imposent la voix du scénariste vis-à-vis du diffuseur, etc., etc. Évidemment, ils ont une boîte à faire tourner, donc c'est peut-être plus simple pour eux de continuer à faire ce qu'on leur demande, c'est-à-dire à ne pas écouter, à ne pas mettre le récit au centre, puisque tout le monde s'en contente. Idem pour le diffuseur qui aurait tort de vouloir obliger des réalisateurs et des producteurs à changer leur métier, alors qu'ils continuent à délivrer et donc à intégrer le scénariste à la table, même s'ils étaient persuadés que c'était mieux pour le contenu, parce que finalement, ils savent très bien qu'ils ont besoin de se reposer sur le savoir-faire de ces gens, et donc ils ne peuvent pas les obliger à changer totalement leur façon de travailler, etc. Et y compris jusqu'à pourquoi la presse s'embêterait-elle à mettre en avant les scénaristes, alors qu'elle suppose que les spectateurs ont envie qu'on leur parle des réals et des comédiens.
Oui, alors ça, c'est voilà. La presse pas généraliste, enfin pas spécialisée.
Je parle de la presse, presse grand public, mais c'est ce combat qui est important. Évidemment que les passionnés, les gens qui ont
éclairé
sont importants,
sujet,
parce qu'ils font, ouais. Ils font exister, ils font tenir mais la guerre culturelle, la bataille culturelle sera gagnée le jour où, encore une fois, ma mère entendra parler. Du showrunner et du scénariste, pas que du réalisateur. Alors pour l'instant, elle ne connaît qu'un seul scénariste de série en France, c'est moi.
David Alcon. Ah non, même pas.
Et non, si c'est David, évidemment. elle en connaît deux, ce qui est pas mal. Mais
ce qui est déjà beaucoup, hein, voilà. Franchement.
Nous, on voit les jeunes générations. Alors parlons de la FEMIS, parlons du CEA. Parlons aussi de tous ces jeunes que je connais et qui ont une culture du stand-up, de la série américaine,
oui.
Des formats, tous ces gens qui sont à la fois de très bons spectateurs et qui sont des jeunes auteurs, y compris d'ailleurs qui réalisent et qui savent très bien, ils n'ont pas forcément envie eux-mêmes d'écrire les scénarios et qui aimeraient bien qu'il y ait des gens talentueux qui leur écrivent des scénarios bien, bien dramatisés, qu'ils adoreraient mettre en scène. Il y a plein de jeunes qui sont capables aujourd'hui de fabriquer une vision de. Mais bon, j'ai tendance à dire que ce que nous formons à la FEMIS et au CEA, parce que j'ai longtemps travaillé là-bas et je suis encore très proche de ce qui s'y passe, pour moi, il n'y a pas de distinction, on va dire, entre les deux, même si c'est deux écoles différentes, elles toutes les deux concourent à former des scénaristes et des futurs créateurs de séries. Comment dire ? On les forme de manière exigeante à la FEMIS, en essayant de leur faire visiter effectivement l'ensemble des compétences qu'ils vont devoir perfectionner au cours des années pour un jour peut-être devenir créateur de série.
Sur le site de la FEMIS, ils disent, pour la formation, l'un des axes majeurs, c'est les modules de formation spécifiques sur le montage, la production exécutive, la production artistique, la réalisation et le travail avec les comédiens. Donc, ce qui est quand même pas dégueulasse du tout, parce que c'est quand même là où c'est que ça coince.
Absolument.
généralement bon, quoi.
Après, on oublie de dire que nous, qu'il y a aussi une formation, pléthorique et brutale à la dramaturgie.
Oui, ça je...
Encore heureux, j'ai envie de dire.
Et qu'on leur demande énormément, et qu'on suppose que pour assimiler tout ça, tous ces domaines, y compris ceux dont vous parlez, la prod, la direction d'acteur, etc., dont ils vont avoir besoin plus tard. Il va leur falloir des années de travail dans des équipes au service des projets des autres pour pleinement acquérir tous ces outils, on va dire. Mais on leur dit aussi, parce qu'on en a conscience, qu'il n'est pas sûr que tout ce qu'on leur apprend en dramaturgie et en travail collectif sériel, incluant tous les modules que vous avez soulignés, hélas, ne soit pas des choses qu'on risque de ne pas leur demander quand ils vont rentrer dans le milieu du travail, puisqu'ils sont peut-être destinés à servir un peu de chair à canon à la production encore pléthorique sérielle, on va dire, à l'ancienne, et que le grand risque pour moi qu'ils ont, ce serait qu'ils fassent ça trop tôt, trop bien payé, et qu'au bout de quelques années, ils ne puissent plus s'en passer, et qu'ils aient oublié l'exigence qu'on a tenté de partager avec eux. Tant que les débouchés de la télévision seront majoritairement de demander à des scénaristes de travailler à l'ancienne sur des séries, je dirais, à l'ancienne, on arrive, ça sera difficile. Évidemment, ils sont très courageux, très engagés, et de plus en plus, ils vont pousser, et plus ils seront nombreux, plus ils vont pousser, et le milieu évolue. Mais pour l'instant, malgré tout, ils trouvent aisément du travail, pas toujours celui qu'ils croyaient faire, en écoutant ce qu'on leur raconte.
Vous êtes en train de dire que vous leur vendez du rêve, c'est ça?
je ne le cache pas, ne le leur cache pas. En tout cas, c'est pas du rêve, c'est de l'activisme sur l'avenir.
Depuis la création de ce cursus, donc depuis 2013, si je ne m'abuse, quels sont les grands changements que vous avez pu remarquer dans les jeunes générations, dans leur façon d'écrire ou même d'aborder la fiction?
Encore une fois, ils sont de plus en plus cultivés, mais ça je crois que c'est le cas de tous les spectateurs, en termes de récit, c'est-à-dire que c'est ça qui est formidable. Plus on se rend compte de toutes les possibles du contrat qu'on peut passer avec un spectateur, du contrat narratif, c'est-à-dire comment on peut s'amuser de plein de manières à éveiller, aiguillonner, jouer avec les attentes d'un spectateur qui a déjà vu plein de séries différentes, plein de formats, plein de propositions narratives, plus l'espace est ouvert. Et évidemment, du coup, on peut dire que leur gourmandise de proposer à des spectateurs des formats narratifs inventifs ne cesse d'augmenter avec les années, moi je dirais.
Et est-ce que le genre aussi varie? Est-ce que dans les projets qu'on vous fait, parce qu'en fin de formation à la FEMIS, on doit faire un pilote et une bible de série, est-ce qu'il y a une diversification du genre? Parce que bon, le policier en France, voilà quoi, mais...
De plus en plus de comédie également.
De comédie, de science-fiction.
Alors, il y a de la comédie. Finalement, il y a très peu de polar et rarement, et d'ailleurs jamais, de procédural, au sens du cop show. Ce que je regrette d'ailleurs, parce que moi je pense
qu'il
y a de grands enseignements à tirer du procédural, et c'est pas parce que les procédurales policiers sont... Allez, faut que je fasse attention. laisse parfois très rare à désirer en France, que ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses réellement à réinventer dans le procédural.
Ouais.
Mais pas que policiers d'ailleurs. Mais bon, voilà, il y a des propositions très très différentes. Après, on voit bien aussi qu'ils sont influencés par les séries marquantes. Donc voilà. Mais bon, l'offre étant pléthorique aussi, on voit bien que finalement, chacun trouve aussi celles qui lui, les inspirations qui lui vont le mieux. Et on pourrait dire aussi quand même que, au fil des années, les préoccupations, alors là, pour le coup, pas forcément en termes de technique narrative, mais en termes de sujet, de contenu. De quoi ça parle. Alors nous on dit qu'il y a de quoi ça parle et puis de quoi ça parle vraiment, mais de quoi ça parle c'est le sujet quand même. On tendance à évoluer aussi avec la sociologie, donc on peut dire qu'aujourd'hui de plus en plus on a aussi des étudiantes et des étudiants concernés par les questions de genre et de on va dire de questions de racialisation.
Oui.
Ce qui est normal, hein, donc des visions engagées, dans une grande mesure aussi, évidemment, socialement. Ils sont aussi le reflet des préoccupations de la société dans laquelle ils arrivent.
Il faut combien de temps pour que la révolution sérielle française soit actée? Encore quoi? 10 ans? 15 ans?
Non, mais c'est la révolution permanente, vous savez.
Est-ce que l'arrivée des plateformes comme Netflix, Netflix France, Prime Video aussi en France, bon là il va y avoir Salto, j'ai bien compris, ils vont faire leur propre série, Star a annoncé des séries originales françaises. Est-ce que cette arrivée-là va bouleverser pas mal le paysage audiovisuel, mais en fait non pas le PAF, mais va changer le monde des séries à la française?
Alors on l'espère. Évidemment, ça va bouger des choses. Il faudrait juste faire attention que si jamais ces plateformes-là recrutent pour mettre en place les mêmes cadres formés par la télévision française d'avant...
A priori, non, quand même.
Voilà, c'est un risque, en tout cas. Et en tout cas, j'espère que ceux qui viennent de l'ancien système ont eux-mêmes, je pense, dû souffrir. Et j'espère qu'ils vont utiliser ce passage à des entreprises avec une culture plus moderne et plus exigeante pour eux-mêmes accomplir leur rêve de devenir des bons développeurs de séries.
Après, il faut dire que les séries françaises de Netflix en ce moment n'ont pas non plus énormément la cote, si ce n'est pour Lupin récemment. Non,
c'est scénarisé par un Britannique.
Bah, voilà,
je ne peux pas du tout en parler.
Voilà, enfin, c'est un souci. C'est pas un souci, mais je veux dire, c'est paradoxal un petit peu. D'ailleurs, oui. Vous avez bientôt un projet pour Netflix aussi.
Oui, oui. Non, mais on est en post-prod là et. C'est passionnant, le travail avec le réalisateur Juan Carlos Medina, on a une direction artistique sur le projet, donc on le suit intégralement. Les relations avec Netflix aussi, c'est une vraie relation de producteur Xavier Mathieu, c'est une vraie aventure de travail passionnante, et on adapte Harlan Coben, qui lui-même nous suit et... Donc voilà, c'est passionnant, c'est une vraie aventure de travail.
C'est ça qu'il vous faut, un poste de directeur artistique pour tout chapeauter. Maintenant que vous y avez goûté, j'imagine que vous allez devoir le réclamer sur vos prochaines productions.
Alors, encore une fois, plutôt que de dire tout chapeauter, je préfère dire, pour probablement avoir une voix prépondérante sur ce qui concerne l'écriture, et ensuite garder une voix à la table pour le reste du travail. Je prétends pas expliquer à des gens qui ont de grandes compétences, encore une fois, à plein d'endroits, comment ils doivent travailler. Par contre, je pense leur faciliter la vie, de par le point de vue que j'ai moi sur leur travail, du point de vue de l'écriture. Du fait que c'est... Ouais. Voilà. Donc, d'où la direction artistique, qui est une façon de rester, après la fin de l'écriture, à la table, pour aider le reste, et pour aider à la passation, et être à la mémoire, on va dire, du projet narratif de base jusqu'au bout.
Il y a plusieurs syndicats de scénaristes qui veulent l'intervention de l'État pour pouvoir donner un statut clair au métier de scénariste. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ?
Il y a deux possibilités. Hein. Soit on nous laisse devenir coproducteurs de nos œuvres, ce que nous, on a essayé de faire avec David et Jérémy Sahel en montant notre boîte Perpétuelle Soupe.
Pourquoi pour en thérapie ?
Alors non, hélas, parce que la résistance
c'est du là où système
est quand même assez considérable. Mais encore une fois, c'est pas un complot, hein, c'est juste les gens préfèrent toujours continuer à travailler comme ils ont déjà travaillé et pas prendre le risque. Ils vont toujours à ce qui permet d'obtenir le meilleur résultat au moindre coût. Voilà.
Ouais.
Donc on a du mal du coup à. Mais donc soit on nous laisse devenir coproducteurs de nos œuvres, c'est-à-dire que quelque part on accepte de partager. J'ai la marge un peu avec les créateurs, n'est-ce pas ? Soit, à ce moment-là, on accepte d'institutionnaliser quelque chose qui permet, puisque une fois qu'on est coproducteur, évidemment, on doit rester à la table, puisque le produit final nous appartient encore, ce qui n'est pas le cas, hélas, quand on cède tous les droits à un producteur, ou qu'on en cède 98%. Soit, effectivement, il faut une décision collective professionnelle qui, je ne sais pas, donnerait par exemple la co-responsabilité du final cut au réalisateur, au producteur et au scénariste du concept original, à condition qu'il ait été le showrunner et qu'il ait accompagné le projet jusqu'au bout.
Oui.
De toute façon, moi, ce à quoi moi j'appelle, c'est à une réunion collective. Moi, je connais plein de producteurs, plein de réalisateurs, et plein de scénaristes, évidemment, qui aimerait tellement pouvoir travailler de manière plus collective et réellement, en conscience culturellement maintenant, que c'est pour le mieux des œuvres, mais qui se heurte à un mur, on va dire, d'habitude et de confort, et voilà, ce mur humain, aller vers ce qui nous oblige le moins à changer, on va dire. J'en connais tellement, je pense que d'abord, il faudrait que tout le monde ose parler, ose le dire, sans avoir peur des conséquences, et ensuite qu'on se mette tous à la table, parce que si on a vraiment envie de faire notre job, c'est-à-dire si vraiment ce qu'on veut faire, c'est raconter de meilleures histoires, faire de meilleures séries, alors il n'y a pas de raison qu'on ne se pose pas la question si ça n'a pas un peu à voir avec cette question-là des scénaristes. Ouais. Et donc, on se met tous à table et on invente collectivement une façon de travailler. Et évidemment, je pense que ça peut avoir des, ça peut avoir des conséquences en termes de décisions interprofessionnelles et que l'État peut avoir une médiation à jouer là-dedans, pourquoi pas.
Et est-ce que donc, vous avez participé au tout début à Parole de scénariste? Alors au début, a priori, sans vous dire que c'était vous, puis après en révélant que l'expérience était la vôtre,
oui.
Est-ce que c'est important, parce que là vous venez de le dire, qu'il faut tout dire, est-ce que c'était important de dire, bon, voilà, même nous, on a fait Ainsi soit-il avec David Elkaïm et moi, Vincent Pomero, mais là, pour en thérapie, on a eu des soucis avec tel réalisateur, tel truc de production.
Alors, c'était vraiment très important. Alors, pour replacer la chose dans son contexte, peut-être qu'évidemment, là, à ce moment-là, on avait envie de taper un peu un coup sur la table par rapport à en thérapie, mais surtout, on avait réellement envie, parce qu'aussi, on savait qu'on probablement des gens nous reconnaîtraient derrière la description
vite,
qu'on faisait.
Oui.
C'est pour ça qu'on avait tenu à faire une description qui impliquait l'ensemble de la chaîne productive et pas spécifiquement Éric et Olivier, pas les réalisateurs.
Ouais.
Parce que, et c'est pour ça qu'on a pris soin aussi de reformuler et de dire que finalement, nous, ce qu'on voulait, c'était une réflexion collective, pas juste qu'on se jette sur Éric Olivier parce qu'ils sont connus et que c'est plus facile de mettre sur des piquets des têtes des personnes.
Ça, c'est dans le message que vous avez publié là, il n'y a pas si longtemps.
C'est ce qu'on a fini par dire à la fin. Mais dans le message de départ, on avait réellement tenu à décrire tout le process depuis le début jusqu'à la question de la saison 2 sur laquelle on n'était pas. Donc, on n'avait pas du tout insisté sur la relation exclusive de travail avec Éric Olivier. Et évidemment, du coup, on avait, pour les besoins de l'argumentation, plus insisté sur les endroits qui avaient coincé que sur ceux nombreux où artistiquement, avec Éric Olivier, ça s'est bien passé. Voilà. Bon. Ce qu'on voulait aussi, du coup, à ce moment-là, c'est aussi faire entendre notre voix pour donner aussi un peu plus de poids, peut-être, à tous les autres qui parlaient sur Parole de scénariste. Et donc peut-être la voix était moins audible parce qu'évidemment nous on considère qu'aujourd'hui dans le système on est plutôt à un endroit privilégié.
Oui, j'ai lu des trucs un peu scandaleux quand même, c'est vraiment même, voire même plus que scandaleux, c'est vraiment honteux et je ne sais pas comment les gens font pour vivre
avec
eux-mêmes.
Mais nous on voulait aussi du coup aider à faire entendre ces voix-là. Comme d'ailleurs aussi, on précisait bien dans notre poste que ce qui nous avait rendu le plus fou, c'était l'invisibilisation des co-scénaristes en thérapie au générique de fin.
Oh ben.
Et ça, on avait vraiment insisté là-dessus, parce que ça nous semblait réellement... Et donc, après, cette série en thérapie, on la défend et on l'aime, et finalement, artistiquement, même si on a plus de problèmes avec l'environnement industriel, on va dire, artistiquement... elle est plutôt pour nous une très bonne expérience, on va dire. Il y avait aussi un temps pour la promo et pour défendre ce projet qu'on aime, distinct de la question de la revendication collective qui est vraiment urgente. Il est urgent qu'on commence tous ensemble, pas que les scénaristes, à réfléchir à changer un peu nos pratiques pour le mieux des séries qu'on adresse aux spectateurs.
Je pense que cet appel peut conclure
clairement,
notre entretien.
Il n'y aura pas plus fort pour terminer. C'est beau. Merci beaucoup Vincent Poimiro. On espère que cet appel et votre voix sera entendue un peu partout. Et merci d'avoir pris le temps de discuter dans Thérapie de votre travail, de votre. De tout, de la fémis, de l'avenir surtout. Moi, j'ai bien compris que la révolution, elle est permanente. Donc, voilà. Et on va guetter, comme vous êtes en post-prod, on va donc guetter bientôt votre projet Netflix. Alors.
Je vais dire un dernier mot aussi sur la dramaturgie. Oui. La dramaturgie, c'est le conflit, c'est la crise du sens. Il n'y a pas de conflit sans crise au présent. Sans un protagoniste qui se pose la question de putain, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Donc la dramaturgie, c'est la crise du sens. Donc, voilà, si on veut révolutionner la façon de raconter les histoires dans ce sens-là, ça sera la révolution permanente, on va dire.
Eh bien, parfait. Voilà, c'est ça. Un petit peu de psychologie, de psychanalyse, de philosophie et de la foi, un peu, pour rappeler ainsi soit-il. Voilà, tout ce qu'il faut pour, après avoir écouté ce serial causeur un peu spécial avec vous, Vincent Pomero. Encore merci. Merci à qui ?
Merci à vous.
Et puis, je vous dis à très bientôt dans un numéro de Serial Causeur.
Au revoir.
Au revoir.